un podcast France Culture.
Dans les années 60, le grand couturier Paco Rabanne inventait la robe en papier, un vêtement destiné à être porté une ou deux fois avant de finir à la poubelle. Et le créateur d'affirmer, pour moi, c'est l'avenir de la mode. 60 ans plus tard, l'ultra fast fashion règne en maître sur l'industrie de l'habillement. La production mondiale de textiles a doublé entre 2000 et 2015 et elle devrait plus que doubler dans les 6 prochaines années. Retour jusqu'à 15h sur ce marché de l'offre et de la vitesse, dominé par des géants comme Shein, Temu ou H&M. Dans ce deuxième épisode de notre série sur l'économie des excès, nous avons invité Audrey Millet en duplex de Lille, historienne, chercheuse en anthropologie du travail à l'Oslo Metropolitan University et à l'Université de Bologne, autrice de cet ouvrage, Le Livre Noir de la Mode, Création, Production, Manipulation, paru aux éditions Les Pérégrines en 2021. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancé, Anouk Milliot, Laurent Genepin, Tina Young, Léopold Thiévan et Inès Gender.
Soulignons le grand effort accompli aujourd'hui par la haute couture parisienne afin de redonner la vie à cette industrie de luxe qui a porté dans le monde entier le goût et l'élégance française. Les modélistes se sont mis au travail afin de trouver les nouveaux ensembles qui seront adoptés cet hiver. Les dessins terminés, les teintes choisies, le modèle passe à l'atelier. Combien de midinettes, grâce à cette activité, ont ainsi retrouvé leur gagne-pain ? Et bientôt, la collection d'hiver sera prête à affronter le jugement des clientes. Le grand jour est arrivé et les mannequins vont présenter les différentes créations au public.
Bonjour Audrey Millet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors j'ai voulu ouvrir notre discussion avec cette archive des actualités françaises d'octobre 1940, car près d'un siècle plus tard, la force de frappe de la mode jetable est telle que désormais les frontières sont parfois floues entre la fast fashion et les enseignes de luxe.
Les frontières sont très très floues entre, alors la fast fashion, j'ai envie de vous dire le prêt-à-porter rapide, et le luxe, le pseudo-luxe, le demi-luxe. Dans cette réclame, c'était véritablement une réclame, hein, on entend les midinettes ont retrouvé du travail. Donc il y a quand même une bonne excuse pour aller mettre les gens au travail, dans des arrière-cours et dans des situations parfaitement difficiles. Elles faisaient quand même des horaires terribles, même en France, et étaient extrêmement peu payées. Le budget de l'ouvrière était terrible, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Par exemple, dans le cadre du Made in Italy, notamment, où on a autant des travailleurs illégaux que des ouvriers qui ont de véritables contrats, mais qui sont extrêmement peu payés.
Alors, on va revenir sur ces conditions, les conditions de travail qui sont imposées dans cet univers de l'industrie de l'habillement. Mais d'abord, rappelez-nous peut-être, Audrey Millet, quand et comment la fast fashion a émergé.
Alors, plutôt que de parler immédiatement de fast fashion, on va dire que la fast fashion, elle date à partir des années 80. C'est son premier boom. Et elle s'accélère pendant les années 2000. Mais elle a une vie avant. Elle a une mère, une grand-mère. Et c'est le prêt-à-porter. Ce prêt-à-porter naît grâce à la fabrication en série à la fin du XVIIe siècle, lorsque les Anglais et les Français vont coloniser les terres outre-mer. Et il faut faire des vêtements, tout simplement, pour les soldats et pour les marins. Donc ça, c'est une première étape, la fabrication en série. La deuxième étape, on la connaît tous, c'est la mécanisation. Donc ces machines qui vont aider à fabriquer, à produire plus vite les textiles. Mais on a toujours, donc au 19e siècle, on a toujours besoin des couturiers et des couturières. Ensuite, on a l'avènement de l'industrie de la chimie et de la pétrochimie qui va permettre de fabriquer des tissus à moindre coût.
Et alors la fast fashion, vous l'avez dit, s'impose dans les années 2000. Et désormais, il faut parler d'ultra fast fashion. C'est une économie qui a réussi à aller encore plus vite, Audrey Millet.
Oui, c'est la course à la vitesse. Ce secteur-là, depuis le 19e siècle, s'est engagé une course à la vitesse dans la production de volume et à baisser les prix. Donc quand on baisse les prix à un moment du de la fibre, hein, du textile lui-même, qu'on arrive aussi à fabriquer plus rapidement grâce aux machines les vêtements, mais aussi qu'on utilise des produits chimiques à la place de produits naturels pour les teintures. Là, la seule manière d'encore baisser les coûts, c'est de baisser le salaire des ouvriers et les conditions de travail. Et c'était annoncé par Deng Xiaoping dès 1978-79. Le but était d'accueillir pour la Chine des délocalisations pour apprendre le savoir-faire des Occidentaux qu'ils n'avaient pas, puis ensuite de le copier et de coloniser économiquement avec les produits chinois. Et c'est une réussite.
Alors effectivement, le modèle économique de l'ultra fast fashion, c'est la recherche du prix bas, c'est des volumes absolument sans précédent. Et on peut dire que là où la fast fashion, c'était une saison par semaine, l'ultra fast fashion, c'est une saison par jour, Audrey Millet ?
Oui, alors de temps en temps, je préfère dire c'est une saison toutes les semaines, tous les lundis. Donc ça fait 52 saisons par an, ça fait beaucoup quand même. Mais vous avez raison, c'est une par jour. Et en fait, c'est une à chaque moment. Ces saisons sont instantanées. Elles ne se calent plus, bien entendu, sur le climat, mais elles se calent sur l'envie, cette envie immédiate d'un objet. Et on craque véritablement dans l'immédiateté. Et l'immédiateté, bien entendu, ça peut arriver plusieurs fois par minute.
Et ce que cherche à faire la mode éphémère, la mode jetable, c'est de rendre la vente de vêtements élastique, contrairement à ce que prévoit la théorie économique. Audrey Millet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Oui, alors la vente de vêtements rendus élastiques, ça peut paraître un petit peu dingue. C'est-à-dire qu'en fait, on peut toujours avoir besoin de quelque chose. C'est-à-dire que votre dressing, vous pouvez avoir une place pour 200 vêtements. Et vous allez jeter des vêtements parce qu'ils valent très peu cher. Et vous allez remplacer ces vêtements. Puis vous allez peut-être utiliser votre cave, votre grenier, mettre ça dans des cartons, sous votre lit. Vous savez, dans des grands cartons. En fait, on peut toujours aller plus loin dans le vêtement. Tout le temps. À un moment, vous pouvez arrêter de manger, puisque vous n'avez plus faim et vous avez mal au ventre. Mais ce n'est pas le cas avec les vêtements.
Et pour vous, c'est vraiment un marché de l'offre plus que de la demande, c'est-à-dire qui s'appuie d'abord sur la surproduction plutôt que sur la surconsommation. Audrey Millet, la surconsommation ne vient que dans un deuxième temps.
Je crois que les deux quand même passent leur vie ensemble. L'une répond bien à l'autre. Mais cette force de proposition qui est complètement hallucinante, qui s'appuie aussi maintenant sur les réseaux sociaux. Avant, c'était entre guillemets seulement Hollywood, les très très grandes stars, les pop stars. Aujourd'hui, c'est les influenceurs et tout le monde apparemment peut être un micro-influenceur. Il y a une force de proposition qui est complètement dingue. Les vêtements se ressemblent. En plus, on le sait très bien, sont copiés grâce à des algorithmes d'une marque à l'autre. Il y a des recherches systématiques dans les entreprises. Et la demande est quand même là, puisque les gens se déplacent, vont en magasin et achètent régulièrement des produits dont ils n'ont pas besoin.
Alors on va poser évidemment la question de la responsabilité, est-ce que celle-ci doit peser sur les producteurs ou sur les consommateurs, mais il faut rappeler qu'on estime qu'il se vend 56 millions de tonnes de vêtements chaque année dans le monde, c'est absolument considérable. Alors il va falloir nous expliquer, Audrey Millet, qui sont aujourd'hui les géants de la fast fashion, puisque on entend des noms qui peut-être disent quelque chose à nos auditeurs, Shein, Timou, on pense aussi évidemment à Inditex qui possède Zara ou encore à H&M. Quelles sont les marques aujourd'hui les plus puissantes ?
Alors ces marques, on est en train de considérer quand même qu'il y a des marques particulièrement graves dans les systèmes d'exploitation. Donc vous avez Shein, Temu ou encore Primark. Shein et Temu, ce sont des purs produits de l'économie chinoise. C'était Shein, tout d'abord, qui a vraiment lancé cette consommation en ligne et cette consommation ultra, ultra, ultra rapide. En fait, la marque a copié H&M, a copié Zara, qui était de la fast fashion, mais pas spécialement éphémère. Vous ne jetiez pas votre t-shirt s'il avait une tache, puisque il coûtait quand même 20 euros. Alors que là, il va valoir 3 euros. Et Temu, c'est véritablement aujourd'hui une des plus grandes réussites du système du parti communiste chinois. Temu est aussi connu pour avoir des algorithmes extrêmement puissants et pour avaler vos données. Ce qui interpelle les chercheurs sur Temu, c'est qu'on sait que la marque, l'entreprise, perd 30 euros par commande. Donc si vous achetez chez Temu, Temu perd 30 euros. Donc, les chercheurs sont en train de se demander pour quelles raisons cette marque existe et
comment elle survit.
Et voilà, et à quel point elle avale les données, si ce n'est pas finalement le seul but. De toute façon, toutes les entreprises chinoises ont l'obligation de redonner leurs données au Parti communiste chinois. C'est quand même assez différent pour H&M et pour Zara. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'ils se préoccupent, qu'ils sont au top sur les questions environnementales ou sur l'exploitation. Je pense aussi, par exemple, Benetton, qui semblerait être une marque juste au-dessus. Mais quand vous regardez la liste, parce que Benetton nous a fourni la liste de toutes ses usines, donc cette supply chain, vous voyez qu'ils fabriquent autant en Italie qu'au Myanmar. Je veux dire, le Myanmar, c'est quand même une junte militaire, ça se passe pas bien. Quand on sort des t-shirts du Myanmar avec des arcs-en-ciel pro-LGBT, qu'ils ont été faits au Myanmar, je vous assure qu'il vaut mieux pas être gay, homosexuel, ou même une femme, être féministe au Myanmar.
Alors, il y a évidemment la question des coûts de production, hein, et notamment du coût du travail, qui a permis à ces enseignes chinoises de se démarquer et de s'imposer sur ce marché, comme donc Shein et Temu. Mais ce sont des marques qui ont d'autres atouts, notamment peut-être une capacité à se servir de l'intelligence artificielle, Audrey Millet.
Oui, en fait, c'est, enfin, derrière ces marques, il y a quand même des génies. C'est-à-dire qu'il y a une force de proposition grâce à l'intelligence artificielle et grâce à une analyse systématique des tendances, des achats, des envies et des réseaux sociaux qui font qu'ils ont une force de frappe extraordinaire. Chine, les vêtements sont effectivement mal fait, bien souvent, tout simplement parce que l'ouvrier n'a pas le temps de réaliser correctement le vêtement. Le textile est vraiment extrêmement bon marché et n'est pas durable. Mais à côté de ça, vous pouvez habiller quelqu'un qui veut s'habiller de manière classique, qui a 40 ans ou qui a 15 ans. Vous pouvez habiller une adolescente, votre petite cousine et même votre mamie. Donc, ils ont une force de proposition, ils ont dépassé les autres enseignes, et le prix de toute façon fait craquer le consommateur qui n'a pas apparemment l'intention de faire beaucoup d'efforts à ce sujet.
On peut trouver une robe en magasin à 60 euros, or que sur Shein on peut la trouver à 30 euros, donc la moitié du prix c'est déjà beaucoup.
Je suis allée pour mes enfants, mais parce qu'elles ont moins de moyens. Les petites bagues sont à 1,99 et puis les petits bracelets à 3,99.
Il en faut pour toutes les bourses et que certaines personnes n'ont pas les moyens non plus d'acheter des grandes marques ou des marques spéciales. On est des petits salaires, nous on va au plus offrant.
Ils ont donné l'accès à beaucoup de familles, de pouvoir se vêtir correctement. Voilà.
Nous parlons du modèle économique de l'ultra fast fashion et des dérives de cette industrie avec l'historienne et chercheuse en anthropologie du travail Audrey Millet sur France Culture dans Entendez-vous l'écho, qui est ciblée par l'ultra fast fashion. Audrey Millet, quels sont les consommateurs qui sont visés? Vous allez me dire un petit peu tout le monde, mais quand même en particulier la génération Z, c'est-à-dire ces jeunes nés entre 1995 et 2010.
Alors je vais vous redire en effet tout le monde. Il faut vous mettre vraiment là dans la tête de l'économie chinoise. L'économie chinoise vise le monde. Alors ils ont commencé effectivement par la génération Z, qui est habituée à changer, qui a eu beaucoup de choses par rapport aux autres générations. Et tant mieux, hein, plus de vêtements, Évidemment, tant mieux, mais Shein, Temu vise absolument tout le monde.
Comment est-ce qu'elle a réussi à capter cette génération Z, Audrey Millet ? C'est largement par les réseaux sociaux, par TikTok, par l'entremise d'influenceurs.
Oui, Shein a beaucoup utilisé les micro-influenceurs et est d'ailleurs en train de changer son modèle. Donc, ces micro-influenceurs se sont dit, pour une partie, qu'ils pouvaient peut-être gagner leur vie en faisant la publicité, la réclame de vêtements, d'accessoires et en plus les avoir gratuitement et être payés. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé pour eux. Ces micro-influenceurs ont souvent n'ont pas été payés, mais d'un accord entre Shein et eux-mêmes. C'est-à-dire que pour 5 photos, ils avaient une liste sur Instagram ou Story, ils avaient une liste dans laquelle ils pouvaient piocher des vêtements. Et quand ils ont été payés, ces micro-influenceurs, c'était 300 euros pour 5 photos. Ce qui arrive à peu près tous les 2 mois. Donc on ne vit pas non plus de ça. Ils ont rêvé.
Ce qu'il faut dire aussi, Audrey Millet, c'est que le Covid a donné un formidable coup d'accélérateur à ces enseignes chinoises qui ne vendent que sur Internet, justement par rapport à leurs concurrents européens comme H&M ou Zara.
Oui, le Covid a révélé une véritable addiction aux vêtements, à l'accessoire, aux apparences et à l'acte d'achat, à cet acte d'achat. J'ai besoin d'acheter, je me sens mieux, je me suis fait plaisir. Il est vrai que Shein a profité, a mis un grand coup sur les réseaux sociaux à ce moment-là, parce que c'était le seul moyen de communiquer, et a profité de ce moment et a convaincu.
Alors qu'il faut rappeler que Shein, au départ, vendait des robes de mariée fabriquées en Chine à des clients occidentaux. Et puis ensuite, l'entreprise s'est ouverte à un public plus large. Elle a cette capacité à attirer les jeunes générations sur les réseaux sociaux, mais aussi à créer l'événement en ouvrant des magasins éphémères. Elle sait faire le buzz, Audrey Millet.
Oui, elle sait faire le buzz. Ce sont vraiment des communicants de génie. Cette histoire du pop-up, vous voyez, de ce magasin qu'on va ouvrir pendant quelques jours et qui secoue Marseille, qui secoue Toulouse, qui secoue Paris, c'est véritablement surfer sur le caractère rare, unique et limité de l'événement. Ça fonctionne, ça fonctionne. Et effectivement, on a des files d'attente de dingue dans ces magasins-là. Alors, il faut savoir que quand vous rentrez dans un pop-up, vous ne pouvez pas acheter ce t-shirt-là qui est exposé. Vous scannez le code de ce t-shirt, le QR code, et vous le commandez en fait sur la plateforme. Ce qui permet à Shein, dans le même temps, de récupérer toutes les données nécessaires.
Oui, et puis il y a aussi cette capacité, ce talent de certaines enseignes à créer artificiellement de la rareté dans les stratégies de vente. C'est ce que fait, je crois, Zara, alors même qu'il y a une abondance absolue de vêtements, Audrey Millet.
Oui, c'est ce système finalement de collaboration, mais qu'on va voir dans la fast fashion et qu'on verra également dans le luxe. Cette série limitée, il y aura très peu de pièces. Et en fait, c'est souvent le cas, mais les meilleurs là-dessus, c'est évidemment Shein et Temu, parce que le système qu'ils utilisent en Chine, c'est-à-dire véritablement ces usines dispersées qui sont souvent des usines, vous savez, tenues par des familles, mais ce sont des ateliers, ce sont des toutes petites structures, en fait, permettent une grande flexibilité. Ils peuvent, par exemple, tester un produit sur 500 pièces seulement et ne pas respecter, ça c'est une enquête de Public Eye qui l'a démontré, ne pas respecter les lois chinoises, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a des lois en Chine. Il y a des lois du travail, il y a un minimum de salaire, il y a des horaires normalement à respecter, mais Shein et Temu, apparemment, ont un passe-droit.
France Culture.
Voilà 50 dollars en liquide. Vous pouvez prendre 30 dollars sur cette carte. Dix sur celle-là. 20 sur celle-là. Oh, ce qu'il est beau. Refusez.
Entendez-vous l'écho?
Vous êtes sûr? Vous pouvez l'essayer. Encore refusé.
Tiphaine de Roquigny.
Vous l'avez dit, Audrey Millet, ces plateformes comme Shein ou Temu s'adressent à tout le monde, ou presque. Mais avant, le low cost était plutôt mal vu. Il était associé à la pauvreté, au manque de moyens. Comment a-t-il cessé d'être honteux? Est-ce que là encore, c'est le marketing de ces marques qui a joué?
Vous avez eu des témoignages qui disent véritablement la vérité. Effectivement, ces produits s'adressent aux plus modestes. Ensuite, il va falloir quand même analyser ce que signifie pauvreté. Une famille qui, en septembre, à la rentrée scolaire, a des difficultés à acheter un jogging, un survêtement à son enfant, ou des crampons pour faire du sport et la licence de sport, ça c'est dramatique et c'est de la pauvreté. C'est tout à fait dramatique. En revanche, lorsque vous êtes à la caisse de Primark tous les mois avec des poches de 150 à 200 euros, ça c'est pas de la pauvreté. Il faut bien se dire que ce low cost, finalement, il s'impose aussi dans les autres catégories sociales parce que c'est l'accumulation et la possession qui s'imposent.
Oui, mais c'est l'argument de ces marques, c'est de dire qu'elles rendent possible justement pour personnes qui auraient des budgets assez faibles d'acheter, de consommer, de se faire plaisir.
Ah ben, il faut bien qu'ils trouvent une excuse pour se déculpabiliser.
C'est en tout cas l'argument qu'ils mettent en avant. Et on va voir qu'avec cette loi qui a été adoptée en première instance à l'Assemblée nationale pour justement lutter contre les dérives de la fast fashion, il y a cet argument qui est mis en avant d'une loi qui serait anti-pauvre. On va y revenir, mais peut-être pour finir ce tour d'horizon du modèle économique de ces plateformes, il faut aussi expliquer, Audrey Millet, toujours dans l'optique que ça aille plus vite, que les vêtements arrivent en Europe par avion. Évidemment, en train, ce serait beaucoup plus long, je crois que, et par la mer plus encore. Je crois que c'est 6 semaines pour qu'une collection arrive par la mer, 3 semaines en train, et par les airs, c'est 5 jours. Donc, ce sont 5 jours seulement. Évidemment que le choix est vite fait.
Oui, le choix est vite fait pour ces enseignes qui ne regardent pas l'écologie et qui sont en réalité des entreprises. Et je voudrais citer la phrase de Milton Friedman, le prix Nobel d'économie, qui explique qu'une entreprise n'a qu'une seule responsabilité sociale, c'est faire du profit. Et Friedman a raison. L'entreprise n'a aucune âme à damner, aucun corps à frapper. Donc, que faire lorsque cette responsabilité n'est pas immédiatement attachée à la direction de l'entreprise?
Il y a des entreprises qui font le choix d'avoir une vraie responsabilité sociale et écologique. On va voir qu'en effet, il y a aussi d'autres entreprises dans ce secteur de l'habillement qui proposent des vêtements qui sont plus responsables. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de l'impact économique de cette montée en puissance des grandes plateformes, des sites comme Shein, puisque ce que l'on a pu observer en France, c'est une vague de faillite sans précédent l'an dernier dans le secteur de l'habillement moyen de gamme. Yann Rivolahan, président de la Fédération française du prêt-à-porter, parle d'un séisme. Les chaînes d'habillement européennes n'ont pas les moyens de concurrencer ces géants de la mode en ligne, Audrey Millet?
Alors, les chaînes d'habillement dont on parle, c'est notamment nos anciennes marques des années 90, Koukaï, Camailleux, Morgane, qu'on a connues quand on était plus jeune, en fait, elles n'ont pas réussi à prendre le tournant de cette économie, mais également, et je crois qu'il faut l'admettre aussi, un tournant stylistique. Et évidemment, quand on voit le prix final du vêtement, toutes ces grandes plateformes qui n'ont par exemple pas pignon sur rue, donc qui ne payent pas de loyer, qui ne payent pas de vendeuse, évidemment, comparer un t-shirt entre 5 et 45 euros, c'est pas du tout la même chose.
Mais du coup, il y a une vraie inquiétude commerciale autour de cette puissance c'est cela, de ces sites, de ces plateformes, Audrey Millet?
Oui, il y a une inquiétude commerciale aussi en termes d'emploi. Par exemple, même des gens qui allaient acheter de la seconde main, donc nos fripières ou fripiers qui tiennent ces boutiques, qui vont sélectionner des vêtements pour nous sur leur jour de fermeture, le lundi. Ces personnes-là, ou qui tiennent des magasins de vêtements, qui aiment sélectionner des marques, qui aiment sélectionner des styles, des produits, des textures, ces gens-là sont actuellement économiquement à l'agonie.
On va continuer à parler de ce modèle économique de la fast fashion. Audrey Millet, restez avec nous, on se retrouve juste après ça. La Britannique PJ Harvey sur France Culture. Entendez-vous l'écho et sa chanson Dress, surconsommation, en découdre avec la fast fashion. C'est notre sujet aujourd'hui. Nous sommes toujours en compagnie d'Audrey Millet, historienne chercheuse en anthropologie, dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et Cassandre Puel et mise en onde par Olivier Arnay. Alors, comment les géants de la fast fashion parviennent-ils à tirer les prix vers le bas? On a commencé à en parler, Audrey Millet, en partie grâce à des coûts de production peu élevés dans des pays où la main-d'œuvre est bon marché. Vous avez cité la Chine, mais il faut parler également de l'Inde, du Cambodge, du Bangladesh. Quels sont aujourd'hui les principaux pays producteurs de cette industrie de l'habillement bon marché ?
Alors, tout l'Asie du Sud-Est a été colonisée hein, par ces outils de production. Donc, la Chine, bien évidemment, l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, on en parle rarement, le Laos, le Vietnam, le Myanmar. C'est véritablement toute l'Asie du Sud-Est. En revanche, on parle assez peu d'un tournant, d'un virage géographique qui est celui de l'Afrique. Et notamment les Chinois qui trouvent que quand même l'ouvrier chinois est beaucoup trop cher aujourd'hui et ils réclament Il a des revendications sociales.
Et c'est vrai que les salaires ont augmenté en Chine.
Les salaires ont augmenté, alors c'est toujours pas un salaire vital, et puis de toute façon les lois ne sont pas respectées, mais le Chinois s'est dit que quand même il pouvait aller trouver moins cher. Et donc il est arrivé en Éthiopie, il y a une dizaine d'années, où le salaire est à 26 euros par mois. Il faut même dire que l'ouvrière éthiopienne hésitait à aller travailler pour ses usines, parce qu'elle ne s'en sortait pas. Elle s'en sortait mieux au village. Donc il y a une véritable colonisation de l'Afrique. Ensuite, il faut pas rêver. On a des zones en Europe qui sont sujettes à ce type d'exploitation. En Italie, on a Naples, dès les années 80, où les Chinois commencent à négocier avec la Camorra. Finalement, ils s'arrangent. La Camorra leur dit, bon, le port de Naples, on peut faire rentrer des choses. On adore vos contrefaçons Nike. Mais allez plutôt vers Prato, donc à 20 km de Florence, où les usines textiles ne sont plus utilisées. Et depuis, donc à Prato, tous les districts textiles, c'est-à-dire Macroloto, ce sont leurs noms, Macroloto 1, 2 et 3, sont tenus par une minorité chinoise du nord Est, les Wenzhou, qui ont racheté tous les outils de production et ont finalement déplacé le système d'exploitation de la Chine à l'Italie, donc à Prato, à Milan, on a encore eu des nouvelles à ce sujet-là ce week-end, mais également en France, à Aubervilliers et à Marseille.
Vous évoquez ce week-end, il faut effectivement nous raconter ce qui s'est passé près de Milan, puisque c'est une société du groupe de luxe Armani qui a été placée partiellement sous administration judiciaire par le tribunal de Milan pour avoir eu recours à des sous-traitants violant le droit du travail. Qu'est-ce qui s'est passé, Audrey Millet ?
Alors en fait, deux procureurs, Paolo Storari et Luisa Bologna, ont lancé des enquêtes sur le travail illégal en Italie depuis quelques années. Et ils s'intéressent particulièrement à ce qu'on appelle, ce sont des quartiers en dehors de Milan, qu'on appelle le Bangladesh, pour vous dire à quel point les conditions de travail sont terribles. Et le tribunal, donc il y a eu une perquisition dans des usines, le tribunal a décidé de mettre partiellement donc Giorgio Armani opération sous contrôle judiciaire. Les procureurs ont dit qu'il y avait une normalisation de la déviance, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que Giorgio Armani a donné des commandes à deux entreprises qui ensuite ont sous-traité sans qu'il le sache. Là, on a un rapport interne à l'entreprise d'Armani qui explique qu'ils sont allés visiter les deux entreprises, donc les premiers sous-traitants, et qu'ils n'avaient pas la capacité, en termes de machines, en termes de main-d'œuvre, de fabriquer les vêtements, et qu'il y avait donc obligatoirement une sous-traitance. Alors, ce rapport est issu de visites mensuelles d'une personne de chez Armani, ce qui veut dire que l'entreprise savait. La sous-traitance, elle est extrêmement classique, on l'a vu à Naples, on l'a vu à Prato. Il s'agit d'une chaîne d'approvisionnement Wenzhou, donc cette minorité chinoise, qui utilise des travailleurs illégaux, donc au noir et avec des salaires de misère.
Oui, justement, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement des conditions de travail qui ont été révélées dans cette usine, chez ce sous-traitant d'Armani, près de Milan, Audrey Millet ?
Alors tout d'abord, on a remarqué des défauts sur les machines. C'est-à-dire que les machines ont été modifiées pour augmenter la vitesse de production. On a des machines de découpe ou des machines à coller, de matériel de teinture aussi, sur lesquelles on a enlevé les inserts en plexiglas, les dispositifs d'urgence et les verres de sécurité, qui en fait protègent le travailleur, tout simplement pour augmenter la vitesse de production. Ensuite, ce sont des entrepôts, ces usines, délabrées, des entrepôts où les ouvriers dorment, mangent, se lavent et pour une grande partie ne sortent pas. Alors ça ressemble à quoi ? Ce sont des entrepôts dispersés, il y a en gros une vingtaine, une trentaine de travailleurs, et l'atelier fusionne véritablement avec le logement, ce qui fait que c'est un lieu de travail domestique. Donc il y avait dedans des lits superposés, un évier cassé, un brûleur à gaz, une marmite d'eau contenant encore une anguille, des casseroles empilées dans une salle d'eau et des substances chimiques et inflammables qui n'étaient pas surveillées. On a retrouvé dans cette usine un registre noir. Alors il faut savoir qu'on l'appelle registre noir, comme le livre noir de la mode d'ailleurs, parce qu'il s'agit du registre des esclaves noirs durant la traite négrière sur les bateaux.
Et ce sont des conditions de travail éprouvantes qui rappellent en effet les témoignages d'ouvriers chinois employés comme sous-traitants par Shein. Écoutez.
Le matin, je commence à 8h et je finis à midi. L'après-midi, je reprends de 13h30 à 18h. Le soir, je fais des heures supplémentaires de 19h à 22h. Le week-end, je ne fais pas d'heures supplémentaires, je m'arrête à 18h.
Mon atelier produit 8000 pièces par jour pour Chine, quasiment 7 jours sur 7. Nous n'avons qu'un seul jour de congé par mois. C'est vrai que c'est long, c'est fatigant, oui, bien sûr. Et puis, Chine ne paye pas la sécurité sociale des salariés.
Nous, on travaille pour un seul intermédiaire. On les aide pour les finitions, on termine de confectionner les vêtements, on ajoute les boutons et on emballe. Cette marque, elle nourrit la moitié de la Chine.
Voilà des extraits de reportages réalisés par TF1 et la RTS l'an dernier. Les journées de travail en Chine peuvent durer jusqu'à 18 heures. Est-ce que depuis le drame du Rana Plaza qui, en 2013, avait provoqué la mort de plus de 1100 personnes au Bangladesh lors de l'effondrement de ce bâtiment qui abritait plusieurs ateliers de confection, la sécurité s'est améliorée, Audrey Millet, là où les conditions de travail semble s'être peu améliorée.
La sécurité s'est améliorée en partie. Des accords, notamment les accords du Bangladesh, ont été proposés aux entreprises qui souhaitent signer, qui ne sont pas obligées. Alors, la sécurité s'est améliorée, mais dans les entreprises légales. C'est-à-dire que en période de production intense, tous les moyens sont bons pour augmenter les volumes.
Mais il y a quand même eu du changement grâce à la loi sur le devoir de vigilance sur les sous-traitants avec laquelle la France a été pionnière en 2017 et qui est devenue une loi européenne, Audrey Millet.
Je vais vous dire non. L'exemple d'Armani est un très bon exemple. Vous pouvez demander à votre sous-traitant, donc vous avez un premier sous-traitant, fais attention, ne sous-traite pas, signe ce papier. Mais si vous n'avez personne qui va vérifier, et si, comme le rapport chez Armani le montre, personne ne fait rien dans l'entreprise quand on sait qu'il y a de la sous-traitance, finalement, c'est du pareil au même. Donc, on n'a pas vraiment de progrès à ce niveau-là. Et les horaires dont parlait l'ouvrière de chez Shein peuvent considérablement varier. C'est-à-dire qu'à Prato ou à Milan, là, on a du 14 heures par jour et des ouvriers qui se voient fournir par leurs employeurs, mais ils payent, de la kétamine, c'est-à-dire cette drogue qui fait courir, tenir les chevaux, afin qu'ils tiennent, parce qu'ils travaillent 7 jours sur 7, 14 heures par jour. Certains ne sortent pas des entreprises, c'est-à-dire qu'on a personnes qui, pendant des mois et des mois, et même des années, ne sont pas sorties de ces usines. C'est une exploitation systématique des arrivants Wenzhou. Mais aujourd'hui, on remarque d'autres populations, qui ont des grandes capacités, de grands savoir-faire, et ça je pense qu'il faut vraiment l'indiquer. On a les Pakistanais, les Bangladais, qui sont en Italie et qui ont été invités, entre guillemets, par les Chinois pour faire le sale travail, parce que ils ne veulent plus véritablement le donner à leur propre communauté. Donc, c'est une forme, ils délèguent le sale travail.
Alors, vous l'avez quand même évacué un petit peu vite, Audrey Millet, cette loi sur le devoir de vigilance à l'échelle européenne. Elle a même été obtenue après des mois de négociations. Le mois dernier, les 27 se sont mis d'accord sur un texte qui impose aux entreprises d'identifier et de corriger au sein de leurs équipes, comme chez leurs fournisseurs, les atteintes à l'environnement et aux droits des travailleurs. Alors, certes, elle est moins ambitieuse hein, que ce qui était prévu au départ, puisque la directive concerne les entreprises de plus de 1000 salariés avec un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros contre 500 salariés et 150 millions d'euros dans l'accord de décembre 2023 contre lequel l'Allemagne s'était élevée. Mais tout de même, cet accord est passé. Pourquoi ? Notamment parce que ce qui inquiète aujourd'hui beaucoup Audrey Millet, ce sont les atteintes à l'environnement de cette industrie. L'ultra fast fashion est extraordinairement polluante.
L'ultra fast fashion, la fast fashion sont extrêmement polluantes. Elles polluent les rivières, donc avec des produits chimiques, qui sont par exemple utilisés pour les teintures. Il faut savoir que ces produits chimiques, j'ai réalisé avec Saskia Bricmont un rapport européen pour modifier la loi REACH sur les produits chimiques. Ces produits, ça peut être par exemple du plomb, du mercure, de l'arsenic, du cadmium, du barium. Il y a des seuils à respecter. Ils sont déversés dans les rivières et ce sont des produits qui sont potentiellement toxiques, cancérigènes, cancérogènes et mutagènes. Donc on a déjà ce problème des rivières.
Sans que ça ait été prouvé, Audrey Millet, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas interdire justement ces... Alors, en tout cas, on n'estime pas que ce sont des entorses au règlement REACH à l'heure actuelle.
Alors,
puisque ces produits sont toujours à la vente sur le sol européen.
Absolument, parce que c'est une question de seuil. Et l'Europe a sorti ça... les compositions des produits de la loi REACH. Mais la Chine l'a également fait. Il y a un REACH China. Et l'Inde l'a également fait. Il y a un REACH India. Mais les seuils ne sont pas les mêmes, en réalité. Et le problème qui ressort, donc c'est aussi également la pollution des sols, d'une manière générale, et tous ces pesticides qui sont déversés dans les terres, et ces ouvriers qui, notamment au Pendjab, boivent à partir des nappes phréatiques. On a des villages qui n'arrivent plus à se repeupler, puisqu'on a une croissance de l'infertilité. L'université de Rome et l'école de santé d'Harvard ont également prouvé ces dernières années qu'il y avait du microplastique dans le lait maternel et que ce microplastique s'accumulait plus on allaitait l'enfant dans l'enfant. Et il y a eu ces microplastiques qui ont été retrouvés dans le placenta et dans l'utérus de futures mères, des microplastiques orange, rose, rouge et bleu. Et les médecins, les docteurs de l'école de santé d'Harvard et de l'université de Rome expliquent que peut-être un jour on aura des bébés cyborgs. Donc ça pollue l'environnement, mais jusqu'à la santé du consommateur, et ça modifie de fait la biologie, et tout ceci est prouvé scientifiquement. Le rapport sur les produits toxiques est en ligne, en anglais, sur Internet.
Et oui, l'industrie textile est responsable de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est plus que les émissions de l'aérien et du transport maritime réunis, notamment à cause de tout ce que vous avez évoqué, hein, Audrey Millet, mais aussi tout simplement parce que il faut peut-être retracer ce parcours d'un jean, mais en fait, il peut faire une fois et demie le tour de la planète.
Oui, c'est ça. Alors, par exemple, vous allez avoir un coton qui est fait aux États-Unis. Et ce coton fait aux États-Unis va partir d'un port aux États-Unis pour être filé, par exemple, en Inde. Donc, il va faire un petit bout de chemin. Quand il a été filé, ensuite, bon, qu'il est devenu textile, on va par exemple le teindre au Bangladesh et on va rester au Bangladesh. On va coudre. Ce jean ou ce t-shirt, c'est tout à fait valable. Mais il peut être floqué, c'est-à-dire que le dessin qui est sur votre t-shirt ou votre jean, ou les paillettes qui sont ajoutées en finition, ça peut être fait au Maroc, en Bulgarie. Donc vraiment, on traverse le monde entier. Il y a eu une spécialisation véritablement des pays. On a certains qui sont spécialisés dans la maille. Et ça pose des problèmes, en réalité, de géolocalisation des entreprises. Et ça re-questionne les formations, comment former des ouvriers sur toutes les étapes de la chaîne, mais est-ce que c'est rentable pour l'économie, pour le business.
Et puis la pollution, ce sont aussi les déchets produits par cette industrie. Chaque Français jette en moyenne 12 kilos de vêtements par an et ces montagnes de t-shirts et de jeans atterrissent dans des pays au développement, en développement comme le Ghana en Afrique de l'Ouest.
Regarde tout ça. On n'en a pas besoin, ça ne nous sert à rien.
Ça, c'est un jean de la marque Boss. Et là, regarde, c'est un autre jean.
Tout ce que vous voyez autour, nous le brûlons. Nous le brûlons encore et encore. Mais il y en a toujours plus. Ça nous rend malade, ça donne de la fièvre, des maux de tête et beaucoup d'autres choses.
Ça, c'est des robes d'enfant. Et là, c'est pour les bébés. Ça, c'est des sous-vêtements pour hommes. Vous voyez tout ce qu'il y a ici? C'est un gros business dont je m'occupe. Habituellement, on reçoit ça deux ou trois fois par mois.
Nous achetons des vêtements de seconde main et ensuite nous les vendons. C'est pour ça qu'on est ici. Ça vient de Londres, de Dubaï, du Canada. Ça, c'est poubelle, ça aussi, poubelle. Tout ça, ça ne vaut rien.
Vous pouvez voir que ces vêtements se confondent avec la nature. Ça crée un désastre environnemental. Essayer de retirer ça du sable est presque impossible. Ça va prendre des années pour que ces vêtements se dégradent. Et durant ce processus, des microfibres nocives, des toxines vont être libérées dans l'environnement.
Voilà un reportage de Nicolas Bertrand, Jean Barrère et Céline Marchand, diffusé en 2022 sur France 2. Audrey Millet, le Ghana est devenu l'un des dépotoirs de la fast fashion mondiale.
Oui, le Ghana est l'un des dépotoirs de la fast fashion mondiale. À un moment, ça a été la Chine, hein, faut pas l'oublier, qui récupérait tous les plastiques, mais elle en a marre, donc elle les envoie en Malaisie. Mais l'Afrique est quand même sujette à ce type de choses. Alors on a le Ghana, on a aussi la décharge d'Akwedo en Côte d'Ivoire, et on est allé quand même jusqu'à déverser nos moon boots, nos doudounes, dans le désert d'Atacama, au Chili. Il y a beaucoup trop de vêtements qui sont jetés et qui peuvent être récupérés, par exemple, par des organismes de charité.
Sauf que ces pays, effectivement, en développement, n'ont pas les moyens de faire face à cet afflux de vêtements. Audrey Millet, c'est bien l'un des problèmes.
Non, on se sert de pays du Sud, en réalité, comme notre poubelle. C'est véritablement la traîne de la consommation. Hein.
Certains parlent de colonialisme, de déchets.
Oui, ce sont les petits squelettes de nos envies, des envies qui ont été dans l'immédiateté, qui n'ont pas été véritables et qui sont vite passées. Pourquoi on va dans ces pays-là? Parce qu'évidemment, les lois sur l'environnement, les lois environnementales sont beaucoup plus faibles, donc c'est beaucoup plus facile. Et ces pays sont en train de se poser de véritables questions par rapport à ces décharges, parce qu'évidemment, elles empoisonnent les sols, elles empoisonnent l'eau et elles empoisonnent les populations. Je pense à cette montagne de déchets à Akwedo, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les scientifiques avaient repéré une croissance des cancers. Depuis, on l'a déplacé et ils ont fait quelque chose de propre.
Face à ces dérives, un projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale afin donc de réguler la mode jetable. Que prévoit ce texte adopté le mois dernier par les députés et qui doit maintenant passer par le Sénat, Audrey Millet?
Alors, ce texte de loi prévoit de définir ce qu'est la fast fashion et l'ultra fast fashion à combien de nouveautés par an. Et ça, c'est assez difficile à... Parce qu'en fait, on a une très très grande différence entre, par exemple, entre Chine et H&M ou Zara. Il va falloir que tout le monde se mette d'accord sur une définition.
Oui, la différence, pardon de vous couper, c'est qu'il y a 7000 à peu près nouvelles références par jour chez Shein, là où il y en a 500 par semaine chez H&M ou Zara.
Voilà, c'est quand même un écart qui est grand. Donc on doit tous se mettre d'accord sur ce que... Peut-être pas sur ce que signifie fast fashion, mais sur quelles sont les conséquences en fait de cette chose dont on parle. Et moi, ce que je trouve très très intéressant dans cette loi, c'est l'interdiction de la publicité, parce que la fast fashion serait un petit peu cette loi pourrait ressembler à la loi Evin. C'est-à-dire que un enfant qui va à l'école le matin, qui prend le bus, ne se retrouve pas sur un arrêt de bus où il n'y a que des pubs de vêtements, d'accessoires, enfin de ce qu'il doit être plus tard ou dès aujourd'hui un futur consommateur. Donc c'est aussi protéger nos enfants, je pense que ça c'est très important.
Et il y a aussi ce malus appliqué aux entreprises de fast fashion sur le principe du pollueur-payeur. Les marques pourraient se voir potentiellement soumettre un malus qui représenterait jusqu'à 50% du prix du produit et qui pourrait atteindre un plafond de 10 euros. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de malus, Audrey Millet ?
En fait, je ne la comprends pas. Normalement, quand vous avez, par exemple, une assurance voiture, vous fautez, vous avez un accident, c'est de votre faute, vous avez un malus. Vous tenez bien pendant quelques années, vous avez un bonus. Est-ce que le consommateur se tient mal ? Donc, parce que finalement, c'est quand même lui qui va payer. Le produit Shein va augmenter, de fait. Donc, on va taper le consommateur alors que le responsable, celui qui envoie des produits pollués, mal fabriqués, dans des conditions d'exploitation terribles, c'est pas le consommateur qui est responsable.
L'espoir, j'imagine, que c'est que ces entreprises soient incitées à produire de façon plus responsable pour ne pas se voir imposer ce malus qui, même s'il pèse sur les consommateurs, va évidemment peser sur le volume des ventes.
Oui, c'est l'espoir. Je crois que moi, je mets plus d'espoir sur l'interdiction de la publicité, parce que finalement, à force de voir, ça crée des envies. Et de temps en temps, on a envie de quelque chose et on se dit, mais d'où vient cette idée ? C'est quelque chose qu'on a croisé. C'est une publicité sur le mail, sur les réseaux sociaux, les actualités, des journaux aussi. Lorsque vous achetez des journaux aujourd'hui, vous avez quand même énormément de publicité. Donc, cette idée de la publicité, je crois qu'il faudrait vraiment la reprendre sur les addictions. Donc, on avait bien entendu la cigarette avec la loi Evin. Et ces addictions, moi, me semblent assez intéressantes à analyser, puisque la minorité dont je vous parlais tout à l'heure, chinoise, qui travaille dans toutes ces entreprises textiles et qui les a rachetées en Europe, a racheté également les bars, donc les cafés, les cafés également PMU, les tabacs, donc en Europe, et les entreprises de confection. Donc on voit qu'il y a un problème avec les addictions et que si la Chine a investi dans ces types de produits, c'est bien qu'il y a de l'argent à faire parce que c'est difficile pour le consommateur qui n'a pas un salaire énorme non plus. Lorsque vous achetez un t-shirt Shein ou Primark, ça va vous coûter entre 5 et 7 euros. Et lorsque vous achetez un livre, c'est tout de même 20 euros.
Et mais justement, est-ce que vous considérez qu'en ce sens, ce serait une loi anti-pauvre que ce projet de loi déposé à l'Assemblée nationale, dans ce sens où il chercherait trop à inciter les consommateurs à consommer de façon plus responsable ? Ça serait une façon jolie et élégante de le dire, mais en réalité, à moins consommer.
Ça peut être vu comme ça, comme une tentative de faire décroître la consommation des Français. Et ces marques-là, je le répète, ne concernent pas que les plus modestes. Elles concernent tout simplement l'envie. Et tout le monde peut avoir des envies, même des gens qui ont beaucoup d'argent et qui achètent cela parce qu'ils ont véritablement une force créative, faite de plagiat et d'intelligence artificielle, mais pour proposer des choses très très différentes.
Parce qu'il existe un moyen de consommer autrement. Il y a ce qu'on appelle la slow fashion, la mode qui dure dans le temps. Et puis, il y a évidemment le choix de la seconde main, dont on sait que c'est un marché en plein boom. Mais justement, la seconde main n'alimente-t-elle pas à son tour la fast fashion, dans la mesure où elle pousse à la consommation et elle diffuse l'idée qu'un jean peut coûter quelques euros ?
Vous avez deux manières de consommer de la seconde main. Vous avez la manière patiente. Vous cherchez le bon produit, celui qui va durer longtemps, celui qui va remplacer cette robe que vous aimiez tellement. Et cette manière patiente, c'est assez génial parce que vous donnez une seconde chance à un vêtement potentiellement mort, donc potentiellement dans une décharge au Ghana, et vous opérez finalement une forme de résurrection parce que vous avez adoré la texture et vous avez choisi votre produit. Ensuite, vous avez la seconde main qui est vécue comme la fast fashion, qui cherche au moins cher des produits à 1 euro et qui est de la fast fashion, c'est-à-dire du Zara, du Nike, du Primark, vendu sur des plateformes. Et là, c'est le même problème. C'est une forme de compulsion, une forme d'immédiateté qui tue une nouvelle fois le produit, qui sera jeté rapidement à 1 euro, finalement. Alors que le produit, normalement un vêtement, c'est censé nous habiller, ça fait du bien, on se sent mieux, on choisit ses couleurs, et on le choisit pas parce qu'il est à la mode, on le choisit parce qu'on sait le mixer avec d'autres vêtements, on mélange, on met une ceinture, et on trouve son propre style, pas celui qui va au voisin ou à la voisine. Et je crois qu'il faut remettre au goût du jour cette notion de style, et évacuer cette notion de mode qui, de toute façon, est éphémère et nous ira très peu de temps.
On arrive au terme de cette discussion. André Millet, peut-être un mot de conclusion sur la nécessité de mieux encadrer la fast fashion dont on a vu les conséquences très graves, à la fois sur les droits humains et sur l'environnement.
Pour encadrer la fast fashion, il faut prendre le problème de manière systémique et je crois que c'est très important. Effectivement, il faut s'intéresser aux eaux, à la pollution, aux gaz à effet de serre. Mais si on s'intéressait tout d'abord à l'exploitation des travailleurs et aux ouvriers, on aurait déjà beaucoup moins de problèmes d'environnement. Donc il faut retourner sur les droits humains, se reposer des questions, exiger que les produits qui arrivent dans nos pays en Europe ne soient pas issus du sang des travailleurs et qu'ils respectent ces droits humains que nous chérissons, par exemple en France.
Merci beaucoup Audrey Millet. Les auditeurs qui veulent aller plus loin peuvent vous lire dans le livre noir de la mode, création, production, manipulation, qui est paru aux éditions Les Pérégrines en 2021. Un grand merci également à Patrick Fournol de France Bleu Nord qui a assuré ce duplex. C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. On se quitte avec Lotus Noir, le nouveau titre du duo électro-français Ascendant Vierge. Demain, surproduction, on exporte ce que l'on sème. Pour ce troisième épisode de notre série sur l'économie des excès, nous serons en compagnie de David Makowski et Eve Fouilleux. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.